C'était le prélude de la troisième partita en mi majeur de Bach. Je ne sais pas si Betkan m'entend encore, mais je pense qu'on peut lui dire vraiment un immense merci. C'est pas mal d'être accueilli comme ça, je trouve, pour une année universitaire. Hein. Il me semble que... on peut entendre et laisser résonner ce qui vient d'être joué un peu comme un appel. Et c'est heureux, je trouve, d'être appelé à l'intelligence, parce que c'est quand même ce qu'on fait ici au Centre Sèvres, le travail de l'intelligence, être appelé à l'intelligence par la musique. Il n'y a pas que des mots qui appellent l'intelligence. Et peut-être même leur place n'est-elle pas la première dans l'œuvre du penser. Peut-être la réflexion doit-elle laisser place à autre chose qu'aux mots, place à ceux qui parlent autrement. Voilà. Betka, pour ceux qui ne la connaissent pas, est étudiante de second cycle. Elle est slovaque, mais son cœur est aussi au Brésil. Elle est chanoinesse de Saint-Augustin. Et j'ajoute que Betka avec Brooke sont les deux étudiants qui, cette année, se chargent des liturgies qui, dans l'église Saint-Ignace, seront animées par les étudiants. Voilà. Donc un très grand merci aussi pour ça. Voilà. Eh bien, après que Betka l'a dit en musique, je vous le redis avec des mots. Bienvenue au Centre Sèvres en cette journée de rentrée. J'espère que vous avez passé un bon été et que vous arrivez tout frais pour cette nouvelle année académique. Et je salue tout spécialement celles et ceux qui arrivent au Centre Sèvres pour la première fois. Je vous souhaite un temps d'études heureux et fécond. Et que ce soit pour vous l'occasion de redécouvrir ce à quoi vous adhérez déjà de tout votre être, mais de le redécouvrir peut-être un peu autrement, à partir de ce prisme de l'intelligence. Ignace de Loyola recommande dans la prière d'oser exprimer à Dieu ses demandes. Eh bien, s'il y avait une grâce à demander de la part d'un étudiant en théologie ou en philo, et je crois que la chose vaut aussi pour les professeurs, cette grâce, ça pourrait être d'élargir notre regard pour faire entrer dans notre champ visuel ce qu'il n'y a pas encore place, que ce qui est encore aveugle en nous accède à la lumière, que ce qui est encore sourd en nous puisse entendre. Voilà, mais je ne suis pas là pour vous donner une retraite spirituelle, mais pour vous accueillir. Et pour accueillir aussi notre intervenant de ce matin, le frère David Marc d'Amonville, qui nous proposera de réfléchir sur le thème « Entendre la bonne nouvelle dans la tempête » avec comme sous-titre « Notre prédication est-elle la musique qu'on joue sur le pont du Titanic ?» Il y a un deuxième sous-titre « À l'écoute de l'Évangile, découvrir un autre rapport au temps, revisiter l'espérance chrétienne. » Tout à l'heure, frère David, je vous présenterai de manière plus précise. Mais auparavant, j'ai plusieurs nouvelles à vous donner qui concernent le Centre Sèvres. D'abord, nous avons une nouvelle secrétaire générale au Centre Sèvres, Marie Eudoxie de Montmarin, voilà. Marie Eudoxie prend la suite d'Anne de Richecourt, et le rôle d'une secrétaire générale au Centre Sèvres est vraiment très important. On peut dire, en gros, c'est ce qui fait que tout marche bien. Que l'infrastructure du Centre Sèvres tient, que chacun parmi le personnel est à l'œuvre et y trouve son compte, et c'est aussi la secrétaire générale qui nous aide à avancer dans nos projets. Un rôle de stimulant, on peut dire, très important. Donc merci beaucoup à Marie-Eudoxie de nous rejoindre, et bienvenue aussi. Voilà. Il y a aussi cette année deux nouveaux enseignants qui nous rejoignent. Tout d'abord, Hugues Vermès, qui est prémontré de l'abbaye de Mondet. Je ne sais pas s'il est ici. Peut-être pas, non. Voilà. Il soutient bientôt sa thèse sur Saint-Augustin, c'est le 14 octobre. Et il enseignera dans la maison, notamment sur les pères de l'Église. Et puis, il y a un deuxième nouvel arrivant qui, là, je suis sûr, n'est pas là, c'est Yves Vendée. Il est jésuite en communauté à Lille et il a fait sa thèse en Chine sur l'herméneutique chinoise des textes classiques. Il a travaillé sur la pensée de, alors là, excusez ma prononciation, Tzu Chi et sa réception dans la tradition chinoise. Donc bienvenue aussi à ces deux nouveaux enseignants. Troisième nouvelle, Marie-Charlotte, notre informaticienne, a eu une petite fille qui s'appelle Jeanne. Vous retrouverez Marie-Charlotte le 17 octobre, qui viendra donc à la fin de son congé maternité. Le travail de Marie-Charlotte au Centre Sèvres consiste à nous aider à dompter un être bizarre et complexe qui s'appelle Orion, qui est un progiciel de gestion intégrée. C'est un être protéiforme, polynodal et j'ajouterais multirécidiviste, qui hante le Centre Sèvres et que vous apprendrez tous à amadouer. Voilà. Enfin, dernière information qui est une recommandation, procurez-vous un pull bien chaud pour cet hiver. car très probablement nous allons devoir faire très attention à notre consommation d'énergie, étant donné le contexte que vous savez, à cause des prix bien sûr, mais aussi pour participer à cet effort collectif à l'échelle européenne, pour ne pas que le système électrique saute, voilà. Et je vous propose à ce sujet que nous soyons tous très attentifs à des choses toutes simples, comme éteindre les lumières quand on quitte une salle, vérifier de même que les fenêtres sont fermées, voilà, des choses comme ça. Et je pense que ça dépend de tous, voilà. Alors peut-être il est maintenant temps de répondre à une question que vous avez en tête, j'imagine. Que font Miranda et Théophile ici ce matin à mes côtés? Eh bien, Miranda et Théophile sont les deux étudiants responsables du bureau des étudiants. Alors, qu'est-ce que le bureau des étudiants? Eh bien, justement, ils vont nous l'expliquer.
Oui, ça fonctionne. Bonjour à tous et à toutes. Nous espérons que vous allez bien et que vous avez passé de belles vacances. Donc, Théophile et moi, on vient ce matin pour vous parler du bureau des étudiants qui a ressuscité de manière assez petite l'année dernière. Et donc, ce matin, on vous le présente officiellement. Ce BDE, Bureau des étudiants, émerge de 2 ans de réflexion dans le cadre de la démarche RSU, Responsabilité sociale et universitaire. Avec une petite équipe, pendant 2 ans, nous avons réfléchi autour de plusieurs thématiques, dont le bien-être des étudiants. Et comme vous le savez ou pas, la démarche RSU est très en lien avec Laudato Si. Le pape François nous l'explique très très bien. Il s'agit bien entendu de la transition écologique, mais pas que. Il s'agit aussi d'une prise de conscience des liens sociaux qui nous animent, des liens que nous avons entre nous. Et donc nous avons pris conscience, Théophile et moi entre autres avec notre équipe, qu'il était temps, qu'il était opportun de ressusciter le bureau des étudiants, car nous pensons qu'il pourrait nous aider à apporter une dynamique étudiante beaucoup plus importante au centre Sèvres, qu'il est important que nous, étudiants, ne nous soyons pas à côté, mais au cœur de cette dynamique étudiante, et que ce BDE peut nous aider aussi à vraiment être dans une démarche synodale et participer aux décisions, à la gouvernance, à donner notre avis aux côtés de notre recteur Étienne Grieux.
Alors on a imaginé que la dynamique étudiante pouvait s'organiser autour de 3 pôles. Peut-être ça va apparaître à l'écran.
Peut-être.
3 pôles plus un qui n'est pas sur le slide, mais donc des pôles qui ont chacun un projet, voilà, un projet d'année. Mais bon, ça c'est ce qu'on a imaginé. Tout reste à construire maintenant avec vous. Un premier pôle, Laudato Si, au sens plus strict, axé sur la prise de conscience collective des enjeux sociétaux qui nous attendent, en lien avec la crise climatique et sociale. Donc il s'agit non pas seulement de réfléchir à quelques-uns pour mettre en place des actions concrètes, ça c'est déjà très bien et ça a déjà été fait. On est héritier d'une mobilisation des étudiants sur plusieurs années. Vous avez vu les poubelles de tri, voilà. Là, le Centre Sèvres commence les démarches pour faire un audit carbone, un bilan carbone dans les prochains mois. Mais pour aller plus loin, l'idée ce serait d'accompagner la prise de conscience collective de tous les étudiants. Donc l'idée, ce serait que quelques étudiants se portent volontaires et soient volontaires pour se former au long cours et transmettre ce qu'ils reçoivent plus largement à la communauté étudiante du Centre Sèvres pour accompagner un mouvement où chacun est partie prenante. Le pôle communauté, ce serait tout ce qui a trait à l'organisation de la vie des étudiants. Donc apprendre à se connaître, mais aussi, voilà, ça va de choses très concrètes comme l'approvisionnement de la cuisine de l'espace Janot. On aura certainement un soutien du Centre Sèvres pour faire vivre davantage cet espace. jusqu'à voilà l'organisation de la fête de fin d'année, avec un projet d'année qui serait de monter de une communauté d'anciens étudiants, donc contacter les années des étudiants qui nous précèdent pour savoir ce qu'ils font aujourd'hui et comment leurs études au Centre Sèvres changent quelque chose à leur vie, à leur insertion dans l'Église, dans la société. Voilà pour qu'on sache voilà ce qui se passe une fois qu'on quitte le Centre Sèvres et aussi faire connaître bien sûr le service communication s'en charge déjà, mais que nous sachions qui sont nos anciens, ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà, et peut-être ça peut aussi donner des idées à des gens qui se posent des questions sur la possibilité de venir étudier au Centre Sèvres. Et enfin, un pôle synodalité, dont le but serait d'ouvrir la communauté étudiante au monde qui nous entoure, aussi bien à l'actualité qu'à l'Église, mais aussi à la scène universitaire parisienne. Les deux grands projets d'année seraient le forum du Centre Sèvres, qui cette année sera confié plus encore aux étudiants, et puis une rencontre interfaculté qui a déjà eu lieu l'année dernière. On espère, c'était très 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 heureux avec les Bernardins et la Cato. On espère récidiver cette année, amplifier le phénomène, et puis peut-être sous d'autres modalités encore, voilà, rendre les étudiants davantage attentifs collectivement à l'actualité. Et puis enfin, le pôle qui n'est pas sur le tableau mais qui les traverse tous, c'est la liturgie, avec Brooke et Betka qui s'en chargent cette année. Parce que la prière est au centre de notre vie, et pour qu'elle le soit davantage encore, voilà, susciter des projets en synergie avec les trois autres. Donc, on ne part pas de rien. Beaucoup de choses ont été faites avant, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin encore. Et ça, ça dépend de nous, ça dépend de vous.
Alors, vendredi 30 septembre, on vous invite à partir de 12h30, après donc la fin de la session de rentrée, à déjeuner ensemble à Henri de Lubac et à boire un petit café avec les chouquettes offertes par le Centre Sèvres. Ce sera un moment de présentation, un moment aussi de faire connaissance, un moment aussi pour peut-être vous engager, nous dire oui, on veut bien prendre en charge ce pôle ou participer à notre manière. Donc on vous invite vraiment à venir nombreux, même si c'est juste pour nous écouter. On vous invite vendredi 30 septembre. Si vous ne pouvez pas venir le 30 septembre mais que vous êtes intéressé, nous on est très sympa, on ne mange pas. Vous pouvez nous solliciter durant, on sera là les deux semaines. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous interpeller. Je crois que c'est tout, non? Cette diapo est très importante. L'adresse mail du BDE, bde@centresèvres.com. Voilà, vous pouvez aussi nous contacter via ce biais-là.
Merci beaucoup. Un très, très grand merci. Et du coup, moi, je vous encourage vivement à répondre à leur appel de Miranda et puis Théophile, notamment à cette invitation du 30 septembre. Je pense que pour nous, c'est un point d'attention important que les étudiants puissent davantage s'impliquer dans la vie du Centre Sèvres. Voilà. Et parmi les choses concrètes que Théophile a signalées, il y a le fait qu'on va vers une formule un peu nouvelle des forums du Centre Sèvres, hein. Et on est en train aussi de réfléchir à une formule nouvelle des mardis d'éthique publique dans lesquels les étudiants seraient davantage partie prenante. Voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais passer la parole au frère David-Marc d'Amonville, qui est moine de l'abbaye d'Encalcate, dont il a été aussi père abbé. Il nous a semblé heureux d'écouter un moine alors que nous sommes dans une période chahutée. Peut-être que tout spécialement aujourd'hui, nous avons besoin de votre stabilité, du rapport au temps qui est le vôtre, pour nous aider nous-mêmes à nous poser dans cet environnement mouvant. Voilà. Et à ce propos, je salue aussi la présence parmi nous de moines et moniales du Steambach qui vont participer à la session de rentrée du premier cycle. Et parmi eux, tout spécialement, deux moines de l'abbaye d'Encalcade, donc l'abbaye du frère David, qui commence cette année le Steambach. Voilà, donc bienvenue à vous. Hein. Frère David, vous êtes bibliste, vous avez notamment traduit et annoté le livre des Proverbes, traduit à partir de la Septante, et je dois confesser que j'ai beaucoup aimé votre traduction de l'évangile de Marc. C'est Marc, histoire d'un choc, qui aide bien, je trouve, à percevoir le choc qu'a été Jésus pour ceux qui l'ont côtoyé. Et j'ai fait ma retraite cet été avec l'évangile de Marc et j'ai été beaucoup aidé par vos commentaires. Vous avez écrit aussi sur le Cantique des Cantiques, sur le livre des Proverbes, dans la collection Les ABC de la Bible, sur le livre de Jonas aussi. Voilà. Et il y a d'autres ouvrages en préparation. J'ajoute aussi que vous publiez également des ouvrages qui sont dans la tonalité, on pourrait dire, de la conversation spirituelle. Le dernier paru, c'est « Si tu veux la vie », qui présente la règle de Saint Benoît comme sagesse accessible à tous. Je crois que ça s'adresse à votre neveu et,
ouais. Une nièce aussi.
Et une nièce, voilà, c'est ça. Ouais. Et dans un registre similaire, un ouvrage précédent qui s'appelait « Âme sœur ». Donc vous êtes bibliste, mais il faut ajouter aussi artiste et poète. Voilà. L'image de couverture, c'est une œuvre de frère David.
Voilà.
Donc, eh bien, mille merci, frère David, de nous aider à entrer dans cette année universitaire. Et je vous laisse donc la parole.
Merci beaucoup, frère Étienne. Merci de la confiance. Et merci à vous, déjà, de votre bienveillance. Le titre de la conférence, vous l'avez entendu, c'était, je dis déjà au passé, « Entendre la bonne nouvelle dans la tempête ». Ou peut-être plus encore, « Comment faire entendre la bonne nouvelle en un temps de tempête ». Mais j'avoue que ce qui a prévalu dans le travail que j'ai fait, vous savez, on donne le titre au début, puis après, il faut le remplir. C'est plutôt l'image du sous-titre, à savoir « Notre prédication est-elle la musique qu'on joue sur le pont du Titanic ?» J'avais même employé dans la proposition l'expression « au moment du naufrage ». Mais le père Étienne m'a suggéré très très gentiment et surtout très raisonnablement que pour un début d'année, pour une rentrée universitaire, le naufrage, c'était peut-être pas une formule très positive. Donc on a gardé la tempête. Mais on est obstiné hein, dans ses propositions, si bien que j'ai gardé un peu l'image du Titanic, aussi parce que Jésus n'a jamais eu peur des images. Il faut savoir les regarder en face, si fortes qu'elles soient. C'est d'espérance que nous avons besoin, tous, pour vivre, pour survivre. Et le premier point que je voudrais un petit peu creuser, c'est le fait que ce mot « espérance », ce gros mot chrétien, a une histoire fort peu banale. Alors, j'ai fait une petite enquête, un aperçu archéologique sur l'espérance. D'abord, dans le premier testament grec, c'est celui auquel j'ai accès le plus facilement, les deux tiers des usages du verbe « espérer » se trouve dans le livre des psaumes, les deux tiers de tous les usages du verbe espérer. Je trouve que c'est énorme comme proportion et il me semble que ça signale une corrélation nécessaire, une sorte d'interaction mutuelle entre prière et espérance. Peut-être que notre espérance est en berne parce que notre prière est défaillante. Cela irait dans le sens d'une image que prenait le père Robert Cabier, un professeur de liturgie à Toulouse, quand il parlait de la prière. Une image qui m'a toujours beaucoup plu, parce que j'aime la Bretagne et parce que c'est beau. C'est l'image d'un petit chalutier qui arrive au port pour décharger sa cargaison de sardines. Donc, on voit le petit chalutier qui arrive et puis les moteurs se calme, se met à travailler un peu en faisant du surplace, et un marin lance un bout sur le quai autour d'une bite d'amarrage et se met à tirer très 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 fort et très très doucement le petit chalutier va se caler le long du quai. Alors c'est exactement ça la prière. C'est un effort énorme et conscient qui n'entend pas déplacer le quai, mais se rapprocher soi-même avec sa très lourde cargaison, avec tout son poids de péché du quai. La réalité de Dieu, c'est le quai immuable. Et nous, nous sommes les priants, les marins du chalutier qui tirons de toutes nos forces pour approcher, pour aborder. Cette image de la prière rejoint, je crois, assez en parfaite proximité celle de l'espérance dans la lettre aux Hébreux, l'ancre. L'ancre solidement et sûrement arrimée. L'ancre ne joue son rôle que si la chaîne est tendue. L'espérance n'advient que lorsque la prière est pleinement sous tension. Alors ça, c'était le premier testament. Et le second, c'est chez saint Paul que l'espérance apparaît comme une attitude fondamentale chrétienne, enracinée dans la foi juive, dans les Écritures. Pensons à Abraham et Sarah, espérant contre toute espérance. Et à partir de Paul, un développement fantastique de l'espérance, puisque ça devient une vertu théologale, foi, espérance, charité. Donc formidable, donc on va espérer à tout craint, très bien, espérons nous aussi contre toute espérance. Sauf que, petit hic, minuscule remarque, si du moins on s'intéresse à l'évangile et à la personne de Jésus, Jésus, lui, n'emploie jamais dans l'évangile ni le mot espoir, ni le mot espérance, ni le verbe espérer. Jamais. On y trouvera la foi, la confiance, l'attente, la patience, beaucoup de bonnes choses. Mais l'espérance proprement parlée, jamais. Sauf une fois, il en faut une exception. Jean 5, 45, pour ceux qui veulent aller voir, où Jésus semble dubitatif. Il interroge ses auditeurs. C'est en Moïse que vous espérez? C'est lui qui vous accuse. Passage est difficile. Question qui porte sûrement une autre question en filigrane. Alors comment peuvent coexister cette très forte valorisation de l'espérance chez Paul et ce blanc dans les évangiles? À la réflexion, je crois que le paradoxe n'en est pas un. L'espérance chrétienne commence avec la croix de Jésus. Elle n'a pas lieu avant. C'est la croix seule qui est cette ancre solide dont parle la lettre aux Hébreux. Maritain disait bellement, nous arrivons à un temps où toute espérance placée moins haut que le cœur du Christ sera déçue. Entendons le cœur du crucifié, pas celui du petit Jésus. Alors à quelle hauteur plaçons-nous notre espérance? L'espérance n'a donc rien d'une attitude morale. Elle n'est surtout pas un bon conseil à donner aux gens dépressifs. Et on peut même penser que Jésus, puisqu'il n'utilise jamais ce vocabulaire, décourage systématiquement ce qu'on pourrait appeler le recours bonasse à l'espoir, cet espoir qui fait vivre. Ces interminables rebondissements d'espoir minable qui nous donnent d'avancer le nez dans le guidon, sans regarder l'horizon, sans regarder le mur où on risque de se fracasser, sans voir arriver l'iceberg. Ou pour garder l'autre image, celle de la tempête, on pourrait dire qu'on navigue de vague en vague, sans horizon plus lointain que la prochaine vague, qu'il s'agisse d'une vague de Covid ou de la météo du lendemain, de canicule en inondation. Vous avez reconnu le mode typiquement France Info, journal télévisé, l'actu, les news, les nouvelles, qui n'ont rien à voir avec la bonne nouvelle. J'aime assez rappeler la clairvoyance prophétique de Jacques Ellul, lorsqu'il déclarait « Le premier devoir d'un intellectuel chrétien est aujourd'hui le devoir de prise de conscience, le premier acte, la première nécessité d'une prise de conscience, c'est la rupture par la violence du carnaval des informations, des faits divers. » L'espérance a profondément à voir avec un certain rapport au temps. Annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui passe par un rapport au temps différent. Je voudrais laisser résonner cette piste de réflexion en écho à un constat très puissant que faisait il y a 60 ans Hannah Arendt. Elle écrivait, dans La crise de la culture, « La chose décisive dans notre système n'est pas que la naissance du Christ apparaît maintenant comme le point pivot de l'histoire du monde, mais plutôt que maintenant, pour la première fois, l'histoire de l'humanité s'étend en arrière jusqu'à un passé infini que nous pouvons reculer à volonté en y poursuivant plus loin la recherche, comme elle s'étend en avant jusqu'à un futur infini. Cette double infinité du passé et du futur élimine toutes les notions de commencement et de fin. Pour ce qui est de l'histoire séculière, nous vivons dans un processus qui ne connaît ni commencement ni fin et qui par conséquent ne nous permet pas de nourrir des espérances eschatologiques. Je crois que les exploits du supertélescope James Webb, dont on nous a dit qu'il nous ramenait des images vieilles de 13 milliards d'années, ont sans doute accru encore notre perplexité, du moins la mienne. Mais Hannah Arendt ici, il me semble qu'elle décèle l'un des motifs qui explique le décrochage de l'adhésion du plus grand nombre aux prédications chrétiennes. Un certain rapport à l'histoire, au passé, devenu depuis un siècle déjà de moins en moins crédible. Une érosion de la crédibilité de ce qui est présenté comme l'histoire. Alors je vous propose de prendre deux exemples. Le premier dans l'Ancien Testament, l'autre dans l'Évangile, pour faire bon poids, avec une interrogation à la clé. Lisons-nous réellement la parole de Dieu ? Où vivons-nous, plus ou moins médiocrement, d'une vague teinture d'histoire sainte expurgée, émasculée, dépourvue de toute crédibilité au regard de la science et des avancées historiques? Histoire sainte par rapport à la Bible, c'est à peu près la petite auto de mon enfance. Alors j'avais des Dinky Toys en métal et des Norev en plastique. Et en écrivant ça, je me suis rendu compte que mince, Norev. Norev, ça voulait dire nos rêves. Nos rêves d'enfant. C'était pas mal, mais je ne l'avais jamais compris jusqu'à présent. Il faut attendre longtemps. Hein. Bon, en tout cas, il y a autant d'écart entre la petite auto et la véritable voiture de mon père qu'entre l'histoire sainte et la Bible réelle. Simulacre dérisoire. Contrefaçon impuissante. La Bible est assurément un document historique majeur, de premier ordre. Beaucoup trop d'ailleurs, beaucoup trop imposant pour chacun de nous, c'est évident. Personne n'en fait le tour au cours même de toute une vie. Et du coup, allez, on laisse tomber. On se contente d'une petite pastille de concentré. Non. Non. Alors partons de... Ça tient plus la route, ça s'est écroulé tout seul. Partons de ce que Jésus disait, vous espérez en Moïse, c'est lui qui vous accuse. Qu'est-ce qu'il nous reproche, Moïse ? De ne pas le lire. Tout l'évangile raconte cela. On ne peut pas espérer en quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne veut pas connaître. Jésus aussi nous en fait le reproche, si vous vous souvenez, à la fin de la parabole du riche et du pauvre Lazare, par la bouche d'Abraham. ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. On en est là. Nécessité de tenir donc l'ensemble depuis le début et prémisse Moïse, le grand Moïse, l'immense Moïse. Charlton Heston, Cécile B. 2000, Les Dix Commandements ou Le Prince d'Égypte, dessin animé, Disney, pourquoi pas. C'est l'histoire sainte. Spectacle superbe, mais pas grand-chose à en faire pour notre vie quotidienne. Objet culturel classé. Alors que si je lis la Bible, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'observe? Pour raconter l'histoire du géant Moïse, de sa naissance à sa mort, il me faut 4 livres entiers, 140 chapitres, 4000 versets. Prenons 2 minutes pour regarder ensemble la bande-annonce, l'entrée en scène de Moïse adulte. Car une entrée en scène, on le sait, c'est un programme, une préfiguration riche de tout le développement qui va suivre. Je pense par exemple au début de l'évangile de Marc, quand Jésus surgit incognito parmi ses frères pécheurs pour recevoir le baptême de Jean, un Jésus à qui advient brusquement cette révélation « Tu es mon fils ?» L'évangile démarre à 200 à l'heure. Alors, pour Moïse, qu'est-ce que ça donne dans l'Exode? Je vous lis deux versets. Exode 2, versets 11 et 12. « Il advint en ces jours-là que Moïse, qui avait grandi, alla voir ses frères. Tiens, il s'intéresse lui aussi à ses frères. Il vit les corvées auxquelles ils étaient astreints. Il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu, un de ses frères. Il se tourna de ci, de là, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. » Ah, un meurtre, incognito. Si j'en crois la bande-annonce, Moïse est essentiellement un assassin. Et non content d'être un meurtrier, c'est un dissimulateur. Il planque le cadavre. Tel est le programme de ce que nous raconte la Torah. Fantastique récit biblique qui montre tout aussitôt non seulement ce qui est caché, mais la dissimulation à l'œuvre. Ne sommes-nous pas invités alors à scruter, à creuser, à autopsier, à ouvrir le placard, à sortir le cadavre? Remarquons, c'est un souci de fraternité qui le guide, peut-on dire. Il veut secourir ses frères, ça pourrait racheter un peu le crime, peut-être. Oui, mais le lendemain de la première scène, le premier de ses frères hébreux qui adresse la parole à Moïse, au lieu de le féliciter, l'accuse de vouloir encore ajouter à ce meurtre. « Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Et paf, on passe du meurtre de l'étranger au meurtre du frère. Peut-être que les deux sont liés, inexorablement liés. Alors, on connaît la suite. Moïse fuit à Madian, est obligé d'aller se cacher lui-même, comme Caïn, comme le premier meurtrier, comme le premier frère fratricide. Sommes-nous capables de reconnaître que le meurtre est d'une certaine façon au cœur du programme? Depuis le début de la Genèse, il nous a été raconté que la violence fratricide est répétitive, obsessionnelle, insoluble. Chiffre de l'humanité, on n'en est toujours pas débarrassé. L'immense Moïse est celui qui va tenter d'instituer pour ses frères, au prix de la violence, une régulation de la violence. Au prix de la violence. Et tenter ainsi de guérir la fraternité. Pour ça, il faudra 4 livres et 4000 versets, et ça s'appelle le sacrifice. On verra vite, si on lit vraiment l'Exode et les Nombres, que le Dieu de l'époque, côté violence, ne vaut guère mieux que ses administrés. impossible de le transformer en dieu d'amour bisounours. Ça marche pas, ce Yahvé des origines. Les textes résistent atrocement. Notre divinité originelle, ce dieu de l'orage, des apirous et des chassous de séhir, n'est pas loin d'être aussi rebutante et monstrueuse que les idoles des peuples voisins. Ces voisins, qui sont d'ailleurs tous nos cousins, nos frères, si on a pris le temps de lire la Genèse. Depuis Sem, Cam, Japhet, Ismaël, Ésaü, de ramification en ramification, ils étaient tous frères au départ. Ben oui, ben c'est comme ça. Bref, explorer la violence, et surtout la violence religieuse, concrètement recouverte d'un voile pudique dans nos discours, parce que ça pourrait choquer quelques respectables paroissiennes. Eh bien, c'est très dommage, parce que la violence, qui n'a nullement été éradiquée après 2000 ans de christianisme, est toujours la seule chose qui intéresse nos contemporains. Vous n'avez qu'à regarder l'audimat télévisuel. Cela se vérifie chaque semaine, quel que soit le navet au programme. Si c'est cela qui intéresse nos contemporains, les chrétiens ont peut-être quelque chose à dire, à raconter, des films à proposer, des histoires passionnantes à creuser. La Bible en regorge, et d'ailleurs les tragédiens, les romanciers du monde entier, depuis des siècles, y ont toujours puisé. À toutes les époques. Cette année, il y a 15 jours, l'ACFEB, l'Association catholique française des études bibliques, a consacré son colloque à Metz au thème de la violence. Et j'aurais beaucoup aimé y participer. Creusez la violence, prenez de la peine, la bonne nouvelle est cachée dedans. À moins que l'on ne veuille absolument faire de notre religion un sédatif. Une musique douce à tout prix sur le pont du Titanic, le beau Danube bleu. C'est un choix possible et il est vrai que sous ce rapport du sédatif, nos assemblées excellent parfois. En fait, il y a toujours dans nos modes de lecture un public qui est visé, implicitement, invité, convoqué. Mais lequel ? Tous nous aimerions bien faire l'impasse sur la violence biblique. Sodome, Gibéa, les viols, l'inceste, la prostitution, les sacrifices d'enfants, le Molech, la grande sarabande des idoles. Mais face à ce qui mettait les prophètes dans des colères indescriptibles, comment voudrions-nous simplement tourner la page ? En fait, nous avions essayé, nous avions presque réussi, Dieu était de plus en plus un Dieu d'amour. L'histoire était merveilleuse jusqu'au jour où a éclaté la crise que nous connaissons. Tiens, dans l'Église, ça existe aussi. La violence, l'abus de pouvoir, le viol. Là aussi, même là, des prêtres violents, vraiment. Des religieux, des moines, ça alors. Mais il y a des jours où on se demande si les chrétiens ont jamais lu Exode 32. Exode 32, oh, c'est le veau d'or. Alors oui, on l'a lu, on l'a même lu la semaine dernière, dimanche, dans la liturgie. Mais on s'est arrêté au verset 14. Alors, moi, je vous lis 5 versets de la fin du même chapitre, 5 versets qui, dans presque toutes nos Bibles, portent ce titre assez rébarbatif, l'investiture des Lévites. L'investiture des Lévites. On sent que ça va être tellement ennuyeux. On passe, on saute à pieds joints. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que ces 5 versets ont quelque chose à dire pour disqualifier toute prétention cléricale, sacerdotale, toute attitude inappropriée. C'est la réaction de Moïse à l'affaire du veau d'or. Je vous cite la traduction de la BJ, verset 25. Moïse se tint à la porte du camp et dit « Qui est pour Yahvé ? À moi !» Tous les fils de Lévi se groupèrent autour de lui. Il leur dit « Ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël. Saignez chacun votre épée sur votre hanche. Allez et venez dans le camp, de porte en porte, et tuez qui son frère, qui son ami, qui son proche. » Les fils de Lévi firent ce que Moïse avait dit, et du peuple il tomba ce jour environ 3000 hommes. Moïse dit, « Vous vous êtes aujourd'hui conféré l'investiture pour Yahvé. Qui au prix de son fils, qui au prix de son frère, de sorte qu'il vous donne aujourd'hui la bénédiction. » C'est épouvantable. Il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que ce texte ne nous dit pas noir sur blanc que le sacerdoce lévitique, et assurément la distinction ici avec les prêtres de Jésus-Christ est très importante, ces lévites prêtres de l'Ancien Régime, un régime lui-même révolu pour le judaïsme, puisque le temple n'existe plus, ces lévites sont investis, rendus les dépositaires officiels d'une violence instituée. Violence instituée qu'on peut appeler un sacrifice, puisqu'on en tue 3000 pour sauver tout le reste du peuple. C'est cher, mais cette amputation salutaire sauve le corps tout entier. Archétype du sacrifice. Pour ceux qui douteraient que ce texte soit important pour comprendre le sacerdoce lévitique, la Bible offre un bis qui met les points sur les i. Nombre 25, c'est l'histoire de Pinhas, le sacerdoce des fils d'Aaron, et on recommence, 23 000 cette fois-là. Ça ne compte pas beaucoup. L'image de Dieu, l'image du Yahvé qui est derrière un tel texte, qu'est-ce qu'on en fait ? Et qu'est-ce qu'on peut en faire ? On n'y est plus. On n'y est plus, c'est entendu, mais c'est de là qu'on vient. Le Dieu irascible et le prêtre justicier. Voilà un rapport à l'histoire, différent, mais susceptible de concerner nos contemporains. Regardez, les yeux ouverts, d'où on vient. Tous. Peut-être aussi que certains voudraient y rester à cette religion sacrificielle d'où l'on vient. Duralex et de l'ex. Il y a toujours des nostalgiques de Jurassic Park. Mais l'attitude de tous les autres est tout aussi préjudiciable. Ceux qui ont préféré oublier, gommer, effacer, expurger. La Bible a les yeux ouverts, c'est nous qui mettons des œillères dogmatiques, comme si la révélation était toute lisse depuis le début. Comme si. Alors, grand coup de ciseau. Avant de prêcher l'incarnation, est-ce que nous ne devons pas faire redescendre Dieu sur terre, le regarder bien en face ? C'est ce que la Bible rend possible. De façon à poser la bonne question, c'est quel Dieu, quel Seigneur, celui qui s'incarne en Jésus ? Celui d'Exode 32 ? Bref, écouter Moïse, connaître Moïse, si l'on veut espérer vraiment, c'est-à-dire avec la croix pour appui, l'échec. Au-delà du scandale, au-delà de tous les échecs historiques indéniables. Comment Dieu parle-t-il dans la Bible ? Ça, c'est... Je ne prétends pas résoudre la question, mais enfin, il ne parle pas de façon explicite et transparente. Il parle par la bouche de prophètes, des prophètes ambigus, contestés, qui se chamaillent les uns les autres, qui sont plus ou moins à la solde des rois. L'esprit souffle depuis les origines, mais à la manière de l'esprit. C'est précisément en respectant ce processus, les médiations humaines, pauvres, culturellement marquées et datées, que cette parole advient comme parole que Dieu dit aujourd'hui pour nous. Aujourd'hui pour nous. Ouais. Sinon, on fabrique quoi ? Une idole de plus, peut-être convenable, mais morte. Assurément très ennuyeuse, stérile, sédative. Zéro bonne nouvelle parce que nous ne sommes plus concernés. La Bible rend peut-être impossible la théologie propre. Pour faire un système propre, il faut évacuer 90% de nos textes. En revanche, la Bible mal propre est sans doute la chance d'une époque qui ne peut plus supporter la prétention du système, des systèmes. Justement parce que la coque du navire est déjà fissurée et que la salle des machines est touchée. Ce n'est plus du tout le moment d'astiquer le pont, de refaire les peintures. La théologie chrétienne est-elle prête à vivre une telle croix, une croix réelle? L'exemple de Moïse me pose cette question, une question qui me préoccupe toujours quand il s'agit d'espérance. Vous, étudiant, enseignant, théologien, aimez-vous la Bible réelle ou l'histoire sainte? Aimez-vous le single malt, le vieux rhum des Antilles ou le coca zéro? Ça ne fait pas la même théologie à la fin. Je prends un second exemple qui va nous parler toujours de l'histoire, du temps, mais non plus tellement du passé que de l'avenir et du présent, avec Jésus. Jésus, en un moment où Marc le présente d'une façon parfaitement inattendue, qu'est-ce que fait Jésus au chapitre 11 de saint Marc d'inattendu, de contre-productif, de parfaitement stérile et de tout à fait pas crédible? Deux versets. Et le lendemain, quand ils sortirent de Béthanie, il eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il vint voir si de fait il y trouverait quelque chose, et en arrivant il n'y trouva rien, sinon des feuilles, car ce n'était pas le temps des figues. Et en réaction, il lui dit « Que personne ne mange plus jamais de ton fruit. » Et ses disciples entendaient. Tiens, apparemment, une petite fringale de Jésus un beau matin d'avril. Et Jésus, qui raconte avec une pertinence remarquable la semence, les épis, la moisson, la vigne, nombre d'histoires agricoles, Jésus se plante sur la saison des figues. Et non content de s'être planté, Jésus, le Verbe de Dieu, maudit le pauvre figuier qui était dans son bon droit, puisque ce n'était pas la saison, et pend, desséché. Bon, c'est une catastrophe, un récit comme ça. Ça ne tient pas la route. D'autant que le temps des figues, la saison, c'est justement le kairos. Un mot qu'on sait être décisif dans les évangiles. Le moment clé, le moment favorable. Comment Jésus peut-il être à ce point à côté de la plaque sur une problématique aussi centrale? Nous pataugions depuis quelque temps dans un passé épouvantable, l'horreur d'une violence sacrilège, et nous arrivons sans transition dans un présent dérisoire. Nous voilà passés d'un ravin dans l'autre, l'abîme appelle l'abîme, le dérisoire, l'insignifiant, autre domaine traditionnellement expurgé, sans que personne s'en indigne jamais. sans importance. Dommage, dommage, car nous touchons là, dans cette polarité même, quelque chose d'éminemment chrétien et d'éminemment biblique, caractéristique de la bonne nouvelle, le refus du tiède, du mou doux convenable. Le Dieu de Jésus-Christ ne se tient pas dans le milieu confortable, dans le bien connu, consensuel, dans le convenable et le convenu, jamais dans la convention. Il est tout au contraire à la bordure, à l'extrême. Il se tient aux limites, aux frontières de ce que nous appelons l'humain. Et il nous les fait franchir. Donc, tenir le scandaleux et le dérisoire tout à la fois. L'exécrable et l'insignifiant. Ne pas craindre les extrêmes, c'est une leçon obsessionnelle des évangiles. D'abord parce qu'il y a les extrémités du monde, et les étoiles dans le ciel, le sable au rivage des mers, voilà, tout extraordinaire. Et aussi, 5 pains, 2 poissons, 3 fois rien. Ce qui fait rire Sarah, voilà, dérisoire. Beaucoup, beaucoup trop et 3 fois rien. L'excessif est le dérisoire par rapport aux besoins, par rapport aux moyens. C'est cela même l'humain qui intéresse Dieu et le Dieu qui peut intéresser et concerner nos contemporains. J'aime beaucoup une petite remarque de Saint Grégoire le Grand au détour d'une page de son commentaire sur Job. Il est perplexe. Notre âme, se voyant tout ensemble, est vaste et bornée, ne sait plus ce qu'elle doit penser d'elle-même. Si elle n'était grande, jamais elle ne se poserait de telles questions. Et si elle n'était petite, elle résoudrait au moins les problèmes qu'elle se pose. Voilà notre condition de chercheur de Dieu, de théologien. Si on chasse de nos propos l'excessif et le dérisoire, le trop grand et le trop petit, les deux infinis, il n'y a plus aucune place pour l'irruption de Dieu. Alors autour de nous, bien observer le trop grand et le dérisoire, les prétentions et les projets immenses qui parfois se cassent la gueule et deviennent dérisoires, ou bien le petit caillou de rien du tout que personne n'a vu venir, et qui brise les pieds d'argile du colosse de Babylone, qui provoque l'effondrement total de l'idole. Nos antennes chrétiennes peuvent et doivent nous emmener sur ces deux registres-là, à l'image de ce qui, une fois encore, semble polariser les recherches de nos contemporains. Parce que le n'importe quoi, le dérisoire, la débilité congénitale et récurrente, la rigolade, et le trop grand, ce qui nous dépasse, ce qui nous terrifie et nous angoisse. Les gamins sur la place et la ruine du temple de Jérusalem. Les deux à la fois, parce que rien n'est jamais perdu, parce que la partie n'est pas finie. L'intérêt de Jésus pour le 3 fois rien, les miettes, les 5 pains, 2 poissons, les 2 piécettes de la veuve, les 2 ou 3 qui prient en son nom. Et puis bien sûr, tous les laissés pour compte, ceux qui comptent pour du beurre, les enfants, les malades. Cette polarité incroyablement soulignée, surlignée, obsessionnelle dans les évangiles doit être une boussole constante pour nous et pas seulement un prétexte moralisant. Creusez le dérisoire. Prenez de la peine, l'espérance est cachée dedans. Dans ce sens-là, la docilité proprement évangélique de Marc, qui raconte ce minuscule échec de Jésus un matin d'avril à la recherche d'une figue, il est dans le mille. Même sur des choses apparemment insignifiantes, celui que nous révérons comme le Fils de Dieu a renoncé à avoir la maîtrise. Cette non-maîtrise de Jésus est particulièrement frappante dans ce qu'il dit lui-même de son rapport au temps à venir. Quant à ce jour-là et à cette heure, personne ne sait. Pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Marc 13, 32. Des maîtrises totales. Alors vous le savez, les manuscrits s'affolent. Il y a des copistes qui ont effacé, pas même le Fils. Il y en a d'autres qui ont corrigé, et Matthieu a corrigé Marc. Mais la Lectio Difficilior s'impose, pas même le Fils. Hans Urs von Balthasar, dans sa théologie de l'histoire, a magistralement commenté ce détail. Il écrit « La réceptivité pour tout ce qui vient du Père est précisément ce qu'est le temps et ce qui fonde la temporalité pour le Fils. La temporalité est l'expression claire et précise du fait que le Fils, dans l'éternité, ne s'approprie rien qui ne lui soit constamment et sans interruption donné par le Père. Que Jésus ait du temps à sa disposition signifie avant tout qu'il n'anticipe pas la volonté du Père. Il ne fait pas la seule chose que nous, hommes plongés dans le péché, voulons toujours faire, sauter par-dessus le temps et par-dessus les desseins divins qu'il contient pour nous procurer, dans une sorte d'éternité usurpée, des vues d'en haut, des assurances pour l'avenir. » Ça, c'est théologie de l'histoire. Comment ne pas voir que cette dépossession du temps est devenu le cauchemar de notre civilisation. Absolument incapable d'entrevoir le temps comme un don. Civilisation qui veut absolument gagner, anticiper, présumer, prévenir, prévoir, préempter, par toutes sortes de moyens, maîtriser à tout prix le temps. Et processus qui s'impose inéluctablement à nous tous, par la technologie, l'administration, le rapport à l'argent, les médias, la communication. Toute la vie sociale nous demande d'accélérer, constamment, sous peine de rester au bord de la route. Dans cet environnement, nous allons tous frôler un jour ou l'autre le burn-out. C'est le syndrome de l'éboulie, si bien décrit par Hartmut Rosa, quand on dévale une pente et que le sol ne tient pas et qu'on se met à accélérer comme ça, une matière instable. C'est la quadrature du cercle de l'accélération qui rend chaque jour de plus en plus nécessaire et de plus en plus urgent de planifier à l'avance quoi ? Eh bien justement l'implanifiable, l'imprévisible, l'indécidable. Si bien que, pauvre de nous, l'homme peut de moins en moins faire ce qu'il doit de plus en plus faire. Et on tombe malade, inéluctablement. Soulever cette question du rapport au temps, pour moi, c'est lever un petit coin du voile sur la puissance des idoles qui orchestrent aujourd'hui une telle folie. Au premier chef, l'idole de la maîtrise, à laquelle le colosse qu'est l'Église catholique romaine a plus qu'un autre sacrifié. Idole de la toute-puissance technologique, qui renvoie l'humain à des rôles subalternes, de figurant, voire de carburant, de consommable pour la machine infernale, le système. Si le Fils de Dieu se révèle tel en ce que précisément il refuse de s'approprier à l'avance le don du Père, les desseins d'en haut, les vues surplombantes, ce temps disponible qui lui est donné, le chrétien aujourd'hui se révèle disciple du Christ en ce qu'il refuse lui aussi de collaborer à l'accélération idolâtre, à l'enrichissement idolâtre, à la jouissance idolâtre, au Moloch technocratique, auquel on sacrifie des enfants. Alors, bon, je m'emporte, hein, Mais rassurez-vous, ce n'est qu'un moine qui parle. C'est pas grave, pas grave. Les deux frères qui sont là au milieu le savent. Quelqu'un qui s'est volontairement placé un peu en dehors du système, pour autant que cela reste possible, car l'œil du maelstrom est puissant. L'œil du cyclone avale tout. Mais les autres, quand ils arrivent au monastère, pour quelques jours, il leur faut quelques heures pour nous dire « Oh, ici le temps s'est arrêté ». Bienheureux hôte. C'est exactement le sentiment qui me saisit, moi, quand je vais passer 15 jours au monastère de Bouaké en Côte d'Ivoire ou de Koubri au Burkina. Parce qu'il y a, une synergie culturelle. Moi aussi, j'ai le temps, l'impression brusquement d'avoir du temps. Formidable, paradis sur terre. Bon, notre rempart, quel est-il, notre rempart monastique? Il est fragile, c'est le rempart liturgique, celui de la prière ensemble, et donc de l'espérance, avec des cloches dérisoires qui sonnent des heures, des petites et des grandes, avec un temps liturgique très singulier, dont le principe même est le refus ou la quasi-impossibilité structurelle de toute accélération. La volonté déclarée d'accueillir le temps comme un don et de lui donner réponse, une réponse responsable. Vous vous en doutez, il n'y a pas trop de conclusions sur un tel sujet. Alors, merci de m'avoir écouté avec bienveillance. J'étais impressionné et honoré d'avoir été invité à parler à des chercheurs de vérité, jeunes et moins jeunes. J'ai voulu essayer de faire apparaître un réservoir de sens et d'espérance trop négligé. La Bible, avec ses contrastes, ses saillies, en tant qu'elle nous permet de retracer, non pas l'histoire sainte, mais une histoire de l'esprit et une trajectoire de l'action de cet esprit, action ininterrompue parmi les hommes, et en tant que cette histoire à son tour nous invite à discerner aujourd'hui les signes des temps, au sens le plus fort de cette expression, à l'invitation expresse du Christ lui-même, et éclairer à cette source de lumière les grandes questions qui continuent à secouer le monde, la violence, la sexualité, le pouvoir, la rencontre culturelle entre les peuples et la guerre, mais sans nier la petitesse de nos moyens, le dérisoire de nos disputes clochemerlesques, sans reconstruire en permanence un colosse théologique au pied d'argile, l'idole d'un temple unique et définitif avec ses sacrifices, idole que Jésus a fait tomber au prix de sa vie. Merci.
Et tout à l'heure, dans les nouvelles que j'ai données du Centre Sèvres, j'en ai oublié une qui est quand même très importante. C'est que nous avons une nouvelle bibliothécaire. Nous avons une nouvelle bibliothécaire qui s'appelle Alix Lamé-Bergis. Voilà. Donc vous aurez sûrement l'occasion de la voir quand vous irez au troisième étage à la bibliothèque. Hein. Et donc elle prend la suite de Jacqueline Diou. Hein. Voilà, avant de faire passer le micro pour entendre vos questions, je repasse un tout petit peu la parole au frère David qui voulait rajouter un petit point.
Merci. Ça m'est revenu au hasard des coups de ciseaux que j'ai donnés moi-même dans mes errances. C'est l'histoire qui est racontée de Günther Anders. Vous connaissez peut-être le philosophe. Dans ce qu'il a rendu célèbre, cet homme-là, aux États-Unis, c'est d'avoir interviewé un certain Etterly, qui était le pilote de l'avion qui a largué la bombe d'Hiroshima. Donc cette interview a été publiée, et dans cette interview, il lui pose la question « À quoi vous pensiez au moment où vous pilotiez cet avion juste avant de larguer la fameuse bombe ?» Et Etterly lui répond « Ça va vous paraître idiot, mais j'arrivais pas à me sortir de la tête les 150 dollars qu'on avait empruntés avec ma femme pour acheter un réfrigérateur. » Donc, Günther Anders en tire le principe de ce qu'il appelle le décalage prométhéen, c'est-à-dire le dérisoire et le monstrueux. De plus en plus, la technologie, parce que c'est la technologie qui opère le décalage, nous aussi nous renvoie à des actes dérisoires aux effets monstrueux. Et en tout cas aux effets décuplés, vous voyez, c'est le théorème de Thalès dans toutes ses dimensions là. Le théorème de Thalès, c'est la canne, l'ombre de ma canne, l'ombre de la pyramide. Quand l'ombre de ma canne est aussi longue que ma canne, l'ombre de la pyramide est aussi longue que la pyramide. Et donc, si je maîtrise la canne, je maîtriserai la pyramide. Donc, c'est le début de toutes les potentialités d'une technologie, d'une démultiplication de la science au profit d'une technique. Voilà, c'est le dérisoire et le monstrueux. Je trouvais que cette image du pilote de la bombe d'Hiroshima, pensant à son crédit, on est en 45, hein. Donc un frigo, c'est un gros achat, mais quand même, le décalage reste monstrueux. Et je pense que c'est ces questions-là qui sont aussi posées par la Bible de bout en bout.
Voilà, donc on va entendre des questions que vous avez envie de poser à Frère David. Il y a deux micros. On va peut-être prendre les questions par petits groupes de 2-3 questions, voilà. Et puis, donc à vous de jouer.
Voilà, voilà donc une première question autour de cette place de la technique, de la maîtrise et de la non-maîtrise. Parce que, en fait, vous insistez beaucoup sur l'effet, en fait, négatif de la maîtrise. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même aussi un effet positif d'une certaine bonne maîtrise, où on peut voir tout le côté positif de la technique dans la collaboration, dans l'aide mutuelle, dans les hôpitaux, etc. Et donc une dimension aussi co-créatrice à travers ça. Enfin, donc certains parlent même, enfin, je pense à Jean-Marc Moschetta, il parlait du salut des objets techniques. Voilà, donc c'est peut-être une position un peu extrême, mais en tout cas, j'entends bien cette question d'une toute puissance, mais il me semble en fait que c'est différent, toute puissance et maîtrise.
Merci.
Et puis le deuxième point, en fait, ça serait autour de, il me semble, quelque chose qui est assez important, enfin, qu'on voit ressurgir aujourd'hui, c'est la question quand même des idéologies et des conditionnements par l'éducation, et pour le coup, c'est pas forcément que la technique qui a l'œuvre, en fait, c'est quand même les discours humains. Enfin, on voit bien, enfin, c'est quand même cette remontée des identités nationalistes, mais en fait, qui sont des récits reconstruits, quand même, est un grave danger pour la paix.
Merci, Eric. On peut prendre plusieurs questions à la fois, enfin, à la suite. Geneviève.
Merci beaucoup pour votre invitation à lire la Bible jusqu'au bout, en quelque sorte. J'ai une question autour de l'espérance. Vous avez dit que l'espérance chrétienne commence avec la croix de Jésus et sans doute aussi la résurrection. Mais qu'en est-il de l'espérance des psaumes, dans les psaumes, dans l'Ancien Testament ? Est-ce qu'on va la réduire à des espoirs, des plus loin. Est-ce que ce sont simplement des formes d'espoir ou est-ce qu'il y a aussi une forme d'espérance?
Je vais en profiter pour faire aussi une autre question. J'ai juste là, à côté de Geneviève. Oui. Sur le commentaire par rapport à la violence, notamment dans l'Ancien Testament, et le rapport avec le judaïsme. Sachant que on est facile, les chrétiens, à dire, de toute façon, la violence, c'est une affaire de l'Ancien Testament. Donc, effectivement, on sait d'où on vient, et on a quitté les habits de ce judaïsme violent. Enfin, tel n'est pas mon cas, en tout cas, tel n'est pas mon idée, mais voilà, il y a ce discours qui risque de traîner aussi dans la tête.
Sur ces données-là, ces trois choses qui vont assez loin les unes des autres, mais je pars peut-être du judaïsme, de la dernière question. Effectivement, la tentation, mais c'est un peu une grosse ficelle de se dire d'où l'on vient, c'est le judaïsme, mais nous, on est plus loin. Et donc, on n'a plus besoin d'assumer ces paroles sur la violence parce que c'est une affaire classée qui ne nous appartient pas. Alors, l'affaire, c'est que, pour moi, le temple, la dernière image que j'ai employée, celle du temple, qui effectivement a été ruiné en 70, et le judaïsme n'a pas reconstruit, est resté dans une vocation dialogale, avec des pluralités les rabbins échangent, et Dieu reste inatteignable. Il n'y a pas de théologie qui se recrée, il n'y a pas non plus de place pour un nouveau temple, de nouveaux prêtres et de nouveaux sacrifices. Il me semble que la place vide laissée par le judaïsme, le christianisme a été quand même très prompt à s'en emparer. C'est-à-dire que, est-ce que nous n'avons pas, au IVe siècle, très vite réinvesti la catégorie temple? Et donc la catégorie sacrificielle, plus ou moins réinterprétée, réaménagée, mais en fait, du coup on a refait le vieux système et on est reparti à relire les textes comme préfiguration de ce que nous faisions. Par là, je trouve que là il y a quelque chose qui est pas... Jésus, dans son rapport au temple et à l'abolition de... la destruction du temple, prophétie quand même très forte et très insistante dans tous les évangiles, avec la relecture de la lettre aux Hébreux, qui nous dit une fois pour toutes, c'est fini, il n'y aura jamais rien plus de pareil. Pourquoi on a remonté des sacrements finalement? et toute une histoire où nous reprenons la maîtrise de ce salut qui nous est accordé inconditionnellement. Pourquoi faut-il que nous soyons si tellement dans le faire aussi, tellement dans le... Bon, je sais pas. Voilà, en tout cas, c'est judaïsme. Moi, je me dis, tiens, mince. Mais non, bien sûr qu'on n'a pas évacué ça. Notre violence, elle est toujours là. Notre goût de mériter la grâce, c'est toujours la même affaire, quoi. On revient à nos péchés. Bon, j'ai pas parlé beaucoup de péchés hein, dans ma conférence. C'était intentionnellement. Mais c'est bien parce qu'il faut des choses en creux. Puis ça reste en creux et au moment où on s'y attend pas, pouf, ça jaillit et ça explose. C'est comme ça la Bible. Vous croyez avoir lissé un petit truc et puis brusquement, il y a un petit truc qui résiste et qui clignote et patatras. Ça vous explose en pleine figure et ça ruine votre système. Donc il faut repartir, il faut recommencer. On réélabore. Une théologie en chemin, une théologie itinérante et en tension et en contraste. Bon, ça rejoint la maîtrise positive. Je suis bien d'accord que maîtrise positive, il y a un progrès, c'est le progrès de l'esprit. L'esprit, il a fait des choses merveilleuses parmi les hommes depuis si longtemps, même s'il y a des retours en arrière. Ce que l'esprit nous dit, c'est On ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va. Voilà. On ne peut pas avoir la maîtrise sur lui. On ne peut pas le mettre en cage. Mais il travaille et il travaille à l'horizontale. Il travaille chez tout le monde. Et disons que le risque de la maîtrise technologique, par exemple, c'est la pyramide de la compétence, la pyramide de l'accès au savoir et à cette maîtrise. Moi, je suis très frappé par l'image que Günther Anders donne, d'ailleurs, dans lui aussi, de cette essence de la technologie. C'est quand il dit que jusqu'à il y a 50 ans, on avait une pyramide de la création qui partait de l'inanimé, qui passait par le végétal, l'animal, les mammifères, les singes, l'homme. Pouf, allez, là, on est au sommet de la création. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La pyramide s'est complètement inversée. Au sommet, il y a la technologie qui est sans faille, sans faute, parfaite, mathématique. Et puis, on descend, et tout en bas, il y a errare humanum est. L'homme qui fait tout rater, qui est capable de toutes les erreurs, qui a engendré. Quand il y a une catastrophe, bah, finalement, il faut chercher le coupable. Et c'est un homme qui a fait une erreur. Et donc, errare humanum est, ce n'est pas une concession, c'est sa nature. Ça devient sa nature par rapport à la merveilleuse technologie sans faille de l'algorithme. Bon, c'est des hommes qui créent les algorithmes. Donc, c'est une vision. Je ne suis pas scientifique, donc j'ai une vision caricaturale sûrement de ces phénomènes, mais je vois le danger dans le sens. Certains d'entre vous connaissent sûrement l'œuvre de Jean Violac, philosophe important à mon avis, qui voit bien l'interconnexion du système, que ce soit médias, communication, argent, transport, tout petit à petit est interconnecté. Et donc c'est pour ça qu'on est exclu petit à petit, nous, humains, du système, parce qu'on n'y a pas de place, on ne peut être que le consommable, en gros. C'est l'histoire du film Matrix qui avait développé cette intuition-là. On est bon pour être les piles du système, mais pas grand-chose de plus. Bon, c'est un peu désespérant mon affaire. Donc revenons à l'espoir, espérance dans les psaumes. Dans les psaumes, je mets mon espérance en Dieu, dans le Seigneur. Et quand le priant dit cela dans les psaumes à répétition, on peut dire à satiété, de psaume en psaume, il se défait de lui-même, de sa propre capacité de se sauver. Et là, il fait quelque chose de très important, le priant. C'est pas lui qui va se sauver, c'est Dieu. Je mets mon espoir en l'autre. Et c'est ça qui est si important dans la démarche de la prière, c'est que j'avoue que moi, je vais pas y arriver. Et c'est en me défaisant de ma propre volonté de puissance que j'entre dans une possibilité et de collaboration et d'éclairage par l'autre et d'éclairage par la parole. Voilà, il me semble que c'est l'ouverture du chrétien qui se fait par de multiples canaux finalement. Vous avez parlé aussi des idéologies. Des idéologies, vous avez employé les mots récit reconstruit, qui nous tiennent lieu d'identité. J'étais très content de cette expression parce que c'est ce dont je voudrais purifier notre système chrétien. Un récit reconstruit qui nous tient lieu d'identité, sur lequel on s'appuie de toutes ses forces, mais qui nous transforme en idéologue ou en religion banale, avec ses certitudes, ses affirmations, ses avancées. D'autres questions peut-être ou réactions. Vous avez le droit aussi de taper sur la table. Hein.
Peut-être simplement une question ou une remarque à propos de ce que vous venez de dire de l'espérance. Le priant de l'Ancien Testament espère le salut en Dieu. J'ai été frappée quand vous avez dit, je ne l'avais jamais remarqué, à ce point-là, que Jésus ne parle pas d'espérance. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus ? Hypothèse, est-ce parce que il est là, le salut est là ?
Oui.
Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, c'est bon.
Oui, je voulais revenir sur la question de la violence dans la Bible. Est-ce que assumer le fait que la Bible soit violente, enfin dans ce qu'elle dit, c'est assumer le fait que Dieu lui-même est violent ? Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire ça ? Et dans ces cas-là, comment notamment parler à des personnes non croyantes et justifier de notre foi.
Ma question est à la fois linguistique, mais aussi plus au-delà. En fait, je ne suis pas francophone d'origine, donc pour la différence entre espoir et espérance n'est pas tout à fait claire. Et du coup aussi en partageant avec d'autres, en d'autres langues de ce que je reçois ici, je me demande mais comment au fond différencier entre espoir et espérance. Peut-être pour les francophones c'est plus évident, mais peut-être même pas.
Merci. Non, c'est bien, là j'ai mon compte.
Donc,
J'essaye de répondre à ces questions. Espoir, espérance, c'est vrai que c'est une distinction de la langue française, parce que le latin spes, le grec elpis, enfin on est dans une globalité où les mêmes choses sont dites. Mais en français, c'est le singulier et le pluriel qui est le plus frappant dans espoir et espérance. Il y a une espérance qui est en quelque sorte totale. Les espoirs sont ponctuel et à court terme. Enfin, il y a quelque chose comme un terme plus rapproché dans le mot espoir. Je crois que c'est comme ça qu'on entend en français le distinguo entre les deux mots. Et c'est pas sans force, mais vous savez, il y a tellement de mots qui n'existent pas dans la Bible. Enfin, quand on creuse un peu la langue hébraïque, on s'aperçoit que il n'y a pas tellement de notions. Il y a des mots racines qui sont très polyvalents, très forts, très rattachés au corps et au concret. Et puis, alors le grec nous dilate un peu, et puis même pas mal. Et puis encore après, le latin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça me frappait, moi, quand je prends un mot français comme le sens. Vous voyez ce mot ? Sens. Il n'y a rien d'équivalent dans la Bible. C'est un mot qui n'a aucun équivalent en hébreu, littéralement, ou en grec, ou en latin un petit peu. Mais ce mot sens, il est d'une richesse inouïe. On passe son temps à l'employer parce que c'est le sens de la vie. Donc c'est quelque chose de très total. C'est le sens directionnel. C'est le sens sensitif, la sensation. Donc, et c'est le sens intellectuel, la signification. C'est un mot d'une polyvalence merveilleuse. Alors, c'est François Cheng qui dit, sens, mais c'est le diamant de la langue française, avec sa polysémie et la largeur de spectre de ce mot-là. Vous avez un mot qui est merveilleux, et évidemment, pour un chinois, un monosyllabe aussi chargé, c'est merveilleux. Mais il n'y a rien de ça dans la Bible. Si je tombe dessus, il n'y a aucune tradition. Donc, acceptons aussi que notre langage d'aujourd'hui doit être absolument rejoint. Et c'est ça notre boulot, c'est de passer de ce monde ancien, qui est le monde de la Bible, il n'est pas de plein pied avec nous, il est ancien. Il faut le faire passer à aujourd'hui Et il n'y a que nous qui pouvons le faire. C'est... Il me semble que c'est le boulot d'un chrétien. Et on a des tas de gros mots disqualifiés, grâce, péché, salut, qu'il s'agit de réhabiliter, c'est-à-dire retrouver les mots correspondants, échec. Ça parle autrement aux gens que si on a tout le temps péché à la bouche. Grâce, on pense à Grâce de Monaco et ça c'est clair. Voilà. Il suffit de bouger un petit peu le registre et puis les gens sont tout à fait d'accord de passer de la grâce d'une danseuse. Donc il y a de la place pour ces mots. Mais notre boulot, c'est de retrouver le chemin pour qu'ils aillent de la Bible à la réalité d'aujourd'hui. Merci pour cette question sur les mots espoir, espérance. Dieu est-il violent? Je pense que à la lumière de l'Esprit, et surtout de Jésus, c'est notre propre violence que nous n'avons cessé de projeter sur Dieu. Et on le fait encore, tous les jours. Toutes ces culpabilités terribles qui nous assaillent, c'est le Père Fouettard. On a projeté ça sur Dieu. Et la leçon de la Bible, c'est que ça bouge, que depuis ce Dieu de l'orage là qui en a marre avec le peuple d'Israël, qui dit oh, on va l'exterminer, ça vaut rien, c'est un ramassis, allez Moïse, je vais faire de toi, je vais faire quelque chose qui se tient. Ah non, allez, et Moïse se dévoue pour dire c'est le peuple, tu vas pardonner. Le pardon, l'histoire du pardon à travers la Bible, comment le pardon, eh ben justement il n'existe pas comme tel, mais il y a l'expiation, il y a des rites, il y a le sacrifice. Quand je fais le raccourci violent, je vous l'accorde, entre la scène inaugurale de Moïse et puis quelque chose comme 4 livres pour nous expliquer comment un sacrifice va pouvoir obtenir le pardon de Dieu, c'est ça qui se dessine. C'est que le pardon, on va l'organiser, on va le mériter, on va le mettre en scène, mais peut-être que Jésus, quand il nous fait réciter le Notre Père, en reprenant que des lieux communs, il n'y a que des lieux communs dans le Notre Père, les psaumes ont déjà dit tout ça, sauf qu'il nous fait dire, comme nous pardonnons aussi. Là on est coincé. Et ça c'est la ruse de Jésus, il nous a fichu dans un système où il n'y a plus du tout de temple pour organiser l'expiation, mais nous, chrétiens, nous avons à vivre le pardon tous les jours, dans la relation la plus quotidienne, la plus ordinaire. Et ça, c'est un défi, évidemment, intenable. Et il y a une histoire du pardon qui se dessine là, qui vaut la peine. Voilà pour la violence. Alors, est-ce que Jésus ne parle pas de l'espérance parce que le salut est là ? À mon avis, Jésus parle beaucoup du temps. Il dit que le salut s'est approché, c'est vrai. Mais en même temps, les paraboles de la patience est une vertu très forte dans l'Évangile. Et donc, le salut est là, c'est oui et pas encore. Enfin, comme la formule bien classique qui nous dit que il faut attendre. L'attente, la veille, la vigilance, la patience, Jésus y attache beaucoup de prix. Mais c'est tout autre que la maîtrise. C'est tout autre que de prendre un agenda et de dire ben, « ça je le ferai demain et ça le surlendemain, etc. » Voir le temps comme patience, c'est... J'aime bien toute l'analyse existentielle de... La souffrance, qu'est-ce que c'est que souffrir? C'est quand on n'arrive plus à sortir du présent. C'est quand tout se réduit à cet instant présent où mon corps me broie et où je ne peux pas m'échapper de ce corps qui me broie. Donc je suis réduit à cet instant douloureux. Ça c'est la souffrance. La patience est un peu de même ordre. C'est-à-dire que j'accepte une réduction au présent. De ne pas me projeter sur demain, après-demain et la suite. me semble que c'est plutôt dans ce sens-là que Jésus ne parle pas d'espérance. Il nous renvoie très souvent à ce moment présent à vivre avec la souffrance qui en découle. Peut-être d'autres questions ou réactions.
Il y avait Sylvie.
Merci beaucoup pour cette introduction à une année qui est très stimulante, je trouve, pour vous ouvrir les oreilles et les yeux sur la Bible et la parole de Dieu. En fait, j'ai trois questions. La première, est-ce qu'il vous serait possible de développer un petit peu plus, vous avez déjà commencé à le faire, mais développer un petit peu plus le rapport entre une vraie prise en compte de la violence et la manière de vivre le temps? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, il me semble, vous nous avez dit, je partage tout à fait ça, le fait que nos contemporains sont intéressés par les questions de violence. Mais je suis frappée aussi du fait que parmi nos contemporains, tous ceux qui sont en quête spirituelle, entre guillemets, ou dite spirituelle, je pense qu'ils ne sont pas dans cette sphère-là. Ils sont plutôt dans la sphère d'une recherche de douceâtre, de confort. Voilà, alors ça me paraît être un autre aspect important d'aujourd'hui. Et puis, ma troisième question, c'est sur la liturgie dans sa forme monastique. Parce que, il me semble, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit et ce que vous avez repris ensuite sur les psaumes et la façon dont on se laisse façonner à répéter indéfiniment notre espérance, notre salut est en Dieu. Mais je me dis aussi, la prière ignatienne, elle insiste beaucoup, enfin elle vise aussi beaucoup à l'expression de la subjectivité. La prière monastique, il me semble que elle fait rentrer la subjectivité, elle la façonne dans la répétition de l'écriture. Alors, est-ce que sur cette attention à la subjectivité et la façon dont elle est intégrée à la prière, vous auriez quelque chose à nous dire en rapport avec ce que vous nous avez dit sur l'ensemble? Merci beaucoup.
Merci.
Il y avait une autre question ici. Une autre question là. Et puis tout au fond, Émile là-bas.
Ça marche?
Ouais.
Merci pour votre conférence. J'ai trouvé très, très intéressant des questions très pertinentes pour notre vie comme chrétien dans le monde contemporain. Et pendant votre présentation, vous avez parlé que Jésus n'avait pas de peur de rencontrer les extrêmes. Et je me demande, nous nous trouvons dans un monde assez fragmenté, avec beaucoup de divisions. Et donc, vous-même, dans votre exposé, vous avez réussi à rencontrer des pensées philosophiques différentes, comme telle de Hannah Arendt et telle de Jacques Maritain. Et donc, je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose de notre vocation comme des chrétiens dans le monde contemporain de travailler ça, de travailler la mission de la réconciliation et de nous-mêmes à travers de cette mise en œuvre de la réconciliation, d'approcher les extrêmes et de promouvoir l'accord. Et donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est par rapport à... Vous savez, nous poser une question assez sérieuse, qui c'était si nous croyons dans la Bible réelle ou dans l'histoire du salut. Et ça m'a interpellé beaucoup parce que vous avez aussi posé la question de si ça faire les choix entre l'une et l'autre a des conséquences pour la théologie. Et donc j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez ou quelles seront les conséquences de choisir une herméneutique biblique plus proche de la Bible telle qu'elle est. Merci.
Merci. On va entendre encore la question d'Émile et après on sera obligé d'arrêter pour les questions, mais vous aurez encore, si vous voulez, le déjeuner pour causer avec le frère David.
D'abord, merci beaucoup pour l'intervention. Ce qui me marque vraiment la phrase, l'espérance n'est pas une attitude morale. Il ne faut pas donner aux personnes dépressives. Je suis complètement d'accord. J'ai vécu ça personnellement. 2014, j'étais en Syrie. J'ai passé 4 jours pendant la guerre, au milieu de la guerre. Parler de l'espérance, surtout pour moi, le pardon dans ces temps, était vraiment vain, fou. C'était le silence. Ma question, comment pouvons-nous trouver l'espérance et la vivre dans la tempête? Devant la souffrance de nos pays, de nos peuples, peut-être nos souffrances personnelles, comment nous pouvons trouver et vivre cette espérance? Dans mon expérience, je n'ai que le silence, dans la tempête, le temps de la guerre. Et parfois, il me semble que l'espérance a la tendance de meurtre dans ce silence. L'espérance est paralysée et incapable devant la violence de notre monde. Faut-il attendre des tempêtes pour parler de l'espérance, comme nous faisons aujourd'hui, parler de la violence de la Bible après 2000 ans, c'est facile, mais dans le moment même des violences, des tempêtes, qu'est-ce qu'on fait? Merci.
On va garder l'horizon de la pendule. Les questions sont belles et profondes. Merci à chacun de vous. Par laquelle commencer? Peut-être à la frontière de la dernière question, cette espérance dans la tempête et la troisième question de sœur Sylvie sur liturgie, répétition des psaumes et subjectivité. Cette place essentielle de la prière qui peut être silence, seulement silence, en réponse à la violence du temps, à la violence d'une situation, de la guerre, mais qui peut être aussi cette école de la prière des psaumes, parce que le psaume se trouve, par essence, quand on voit ce recueil des psaumes, c'est une école d'altérité. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train, non pas de s'identifier à un modèle présumé excellent, que ce soit David ou Jésus, on est simplement, comme eux, en train de faire l'expérience du décentrement, parce que chaque psaume nous fait parler quelqu'un qu'on connaît mal, qu'on connaît peu, dont on n'est pas on en est le frère, mais on n'en est pas du tout la copie. On n'a rien à voir avec ce lévite qui chante ici et cet autre abandonné qui se plaint dans un autre psaume, ni celui-là exalté, alléluia, alléluia, on en a jusque-là. Bon, école de décentrement. C'est-à-dire que la réalité ne se réduit pas à ce que toi, tu vis aujourd'hui. La réalité est immensément plus grande et plus diverse. Et les psaumes nous la prennent en un seul office. On a déjà vu passer 4-5, au minimum, 4 ou 5 situations très différentes entre le pécheur, entre le prêtre, je ne sais pas, enfin, il suffit de feuilleter un tout petit peu la diversité. Alors, c'est une école psychologique qui est exigeante, parce que très souvent, le psaume se termine, on fait la doxologie, on se dit, tiens, encore une fois, j'ai pensé à rien. Pendant tout ce psaume, je ne sais même pas lequel on a chanté. Voilà. C'est pas grave du tout. C'est l'essence de la liturgie. S'il n'y avait pas un peu d'ennui dans la liturgie, elle ne produirait rien de bon. Il faut qu'il y ait du vide. Il faut créer le vide. C'est le plus long. Dans l'histoire de la liturgie monastique, on voit très bien que le cœur, l'unique cœur, c'est la parole de Dieu. Mais comme aucune oreille n'est prête pour accueillir cette parole de Dieu, il faut chanter au moins 4 psaumes avant pour avoir l'espérance qu'on soit enfin suffisamment vide pour entendre la parole de Dieu avec bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà. Mais pour arriver à cette vacuité, les psaumes font un travail extraordinaire pour dégager le chemin, libérer, désencombrer. Alors on arrive là avec des tonneaux de scories ordinaires qui sont nos vies à nous, et petit à petit on est libre. On est vide, mais on n'est plus libre. C'est comme ça que je conçois le travail de la prière, et notamment avec cet formidable apport du psaume comme école de prière, une altération. On se laisse altérer par une parole qui vient du fond des âges, qui n'est jamais achevée, dont on sait qu'elle reprend la prière de peut-être tel réfugié, tel prisonnier, tel type au bout du rouleau. C'est pas du tout mon quotidien aujourd'hui, mais je sais que ça va jusque-là, et je peux m'unir à ces situations-là, de même que, étant dans la mouise, avec un moral à zéro, je peux chanter quand même le psaume 148 en me disant, bah oui, si j'y arrive pas, au moins les étoiles, la montagne, les forêts vont louer le Seigneur. Et c'est formidable qu'il y ait du relais ailleurs que autour de moi. Voilà. Répétition, prière, altération. La question de la fragmentation m'interroge beaucoup, m'intéresse aussi. Est-ce qu'en approchant les extrêmes, on peut les réconcilier? Je pense que ce serait très prétentieux de vouloir dire que le travail qui se fait là, dans ce fait de frôler des situations extrêmes, c'est un travail de l'esprit. Voilà. C'est pas notre œuvre. C'est pas notre œuvre. Nous sommes dans le monde fragmenté. Et si nous acceptons de mettre en rapport les fragments de nous-mêmes qui sont tellement divers, notre chaos intérieur, avec ses diverses connotations de peur, de terreur, d'angoisse et d'exaltation, et puis de ce que j'appelais la rigolade, c'est-à-dire le... On a envie de se détendre et finalement on tourne la télé, on regarde un film. Bon, c'est humain, mais pourquoi chasser l'un, condamner l'un et dire que l'autre seul vaut le coup? Non, nous sommes nous-mêmes le lieu de la tension terrible entre toutes ces intuitions, impulsions qui sont spirituelles, mais dont nous n'avons pas la maîtrise. Et donc... fragmentairement, nous nous rapprochons de situations extrêmes, et puis on s'y coltine, et quelque chose se fait. Mais c'est mystérieux. C'est pas de l'ordre de l'avancée. Voilà comment je sens. Peut-être qu'aujourd'hui, le monde fragmenté, il est plus saillant dans nos psychologies contemporaines qu'il ne l'était il y a 50 ou 100 ans. Parce que la cohérence sociétale a volé en éclats. Parce qu'aussi on voyage sur toute la planète et qu'on sait qu'il y a des différences radicales, parce qu'on est tous pluriculturels aujourd'hui. Donc on voit bien, on mange à tous les râteliers, on voit un film japonais, puis après encore on s'en va dans une autre sphère culturelle. Tout ça c'est très 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 riche. Si on ne prétend pas réduire tout ça sur une espèce de censure, bien, mal, positif, négatif. Sentir simplement que ça résonne en moi. Et à partir de là, on va faire du chemin. C'est l'heure? Allez, 0 minute 30 secondes. les autres questions, ben oui, je pense qu'on y... les conséquences théologiques de ce que j'ai essayé d'amorcer sur une Bible plurielle, sur j'ai pas la maîtrise, l'herméneutique, c'est des grands mots, je suis pas théologien, mais d'autres le feront. J'ai amené ma petite Bible explosive, quoi, c'est tout. Et puis tant mieux si ça fait des pétards à droite et à gauche et que ça permet de pas s'enfermer dans des visions trop simplistes et idéalistes de la théologie. Voilà, puis bonne rentrée à tout le monde et merci d'être des chercheurs de Dieu au-delà de toutes ces difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui et ce défi qu'est de produire du sens pour les chrétiens d'aujourd'hui et au-delà même des chrétiens. Merci.